Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, bon dimanche, bon réveil, bon petit déjeuner, bon tout ce que vous voulez. Les grandes gueules du sport, c'est votre émission en direct le samedi, le dimanche. De 9h à midi, 13e saison des Grandes Gueules du Sport. Et à chaque fois, nous sommes très heureux de vous retrouver. Au sommaire aujourd'hui, Yannick Sinner, de nouveau dans la tourmente hier. L'Agence mondiale antidopage a fait appel et réclame 1 à 2 ans de suspension. Est-ce une décision totalement justifiée? C'est la une des GG dans quelques instants. L'UBB a décidé de faire tourner pour le choc ce soir face à Toulouse. Est-ce une honte pour le top 14? Arrivez-vous à le comprendre. Ce sera le bras de fer à 10h. Et évidemment, les GG ne sont pas d'accord. Et puis 11h, les mondiaux de cyclisme. Aujourd'hui, avec l'équipe de France qui se présente, c'est vrai, en outsider. Mais sait-on jamais, le sélectionneur Thomas Vauclair est-il devenu plus important que ses coureurs? Lui, le grand Manitou de cette équipe de France. Sans oublier vos rubriques traditionnelles, la punchline des GG, on parlera de l'Olympique de Marseille et de cette séquence sur l'arbitrage avant le match ce soir face à Strasbourg. Est-ce que ça va servir ou desservir l'OM cette saison? Et puis le zapping, on s'en fout pas. Et évidemment, là je ne peux rien vous dire, 11h30, le débat caché. Nous allons rendre hommage à Mylène Farmer ce matin, qui est au Stade de France ce week-end. Je vais vous présenter les GG. Oh, vous avez peut-être déjà reconnu la douce voix d'une des GG. On ne peut pas la cacher, évidemment. Les grandes gueules du sport ce matin. Bah tiens, pour une fois, je vais commencer avec elle. Une grande gueule qui, comme Mylène Farmer, en une date, elle peut prendre un paquet d'oseille. Marion Bartoli, salut Marion.
Ça, c'est vrai.
Une représentation et on fait manger la famille pendant un an. Bravo Marion, ça va?
Ça va nickel, écoute. Dans 2 jours, c'est mon anniversaire, 40 ans, t'imagines?
Eh mais oui, c'est vrai, 40 ans, quelle folie.
Bordel.
Ça fait quoi?
Incroyable. Ben, ça fait beaucoup, j'ai envie de...
Ça fait beaucoup, Marion. Mais il va falloir s'y habituer. Oh, tu les fais pas, évidemment. Hein, tu fais 41, 42, pas plus.
Au moins. Et...
Une grande gueule qui, comme Mylène Farmer, il est adulé par les plus de 50 ans. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Oui, c'est pareil, même public.
T'aimes bien Mylène Farmer ou pas, toi?
Non.
Non, t'as jamais été...
Oh,
jamais.
Le génial, alors, Mylène.
Jamais.
Oh, non, moi, je dis pas qu'elle est pas géniale, jamais, mais parfois...
Ça ne m'a jamais procuré la moindre émotion. Je n'ai jamais acheté un disque de Mylène Farmer. Mais bon, tant mieux si Christophe. Elle... Bah après, on a fredonné ses chansons il y a 30 ans, ouais. Ouais, tous.
Ok, très bien. En forme, hein, Christophe, ce matin. Ouais. Attention, hein.
À chaque fois, je vais dire...
Et eux, t'aimes bien? Non, pas du tout.
Non.
Pas du tout. On va voir ça tout au long de l'émission. En tout cas, ravi de te retrouver, mon cher Christophe. Une grande gueule qui, comme Mylène Farmer, certains ont pu penser, notamment à Portes, que c'était une catin. Fred Weiss, salut Fred.
Pas qu'à Portes.
Ah, alors là, je ne connais pas la réputation.
Je peux pas te raconter.
Est-ce qu'il est Mylène Farmer celui-ci?
Ben, pas du tout.
Ah, pas du tout. Bah, c'est fou ça.
Dis donc, c'est rabat-joie.
Non, bah, non, c'est pas parce qu'on n'aime pas la même chose que toi, Marion, qu'on est rabat-joie.
C'est qui ton chanteur, chanteuse préféré?
Préfère Nicoletta.
Non, Charles Aznavour.
Ok, ah oui, pas en face de Charles Aznavour. Ouais, très bien. Ok, pas en tout cas, pas dans le mode Mylène Farmer.
Non, bien,
c'est pas grave. Et puis une grande gueule qui, contrairement à Mylène Farmer, on ne saura jamais si le roux lui va bien. Jérôme Pinault, salut Jérôme.
Salut. Allez, elle est moyenne celle-là. Ouais. J'attendais beaucoup mieux.
Je l'ai vu gramer tout à l'heure. Il essayait de trouver des trucs.
Plaisir, parce que t'as pas
il a passé trois quarts d'heure juste pour son intro. Le reste, il a pas du tout bossé. Mais alors, ça dessus, sur Mylène Farmer, il a bossé.
Ah, sinon, j'avais un évident qui, comme Mylène Farmer, on se demande s'il est pas dopé. Mais bon, ça n'avait rien à voir, tu vois. Ça va, Jérôme. Non, mais là, c'était pour être méchant, pour être méchant, tu vois.
Ça va plutôt pas mal. C'est pas très Mylène non plus, par contre.
C'est vrai,
non?
C'est fou, ça.
Toi, tu adores, non?
Moi, je suis pas. Alors,
je suis
comme vous, c'est-à-dire que c'est une extraordinaire chanteuse et l'une de nos icônes, mais j'ai jamais été touché. Mais c'est peut-être parce que c'est pas une question de génération. Je sais pas. C'est pas mon.
Pas non, mon... Non, moi,
non, non, mais c'est surtout une nana complètement mystérieuse.
Mais c'est ça qui est bien.
Pas la vie.
Pour le coup, c'est bien. Elle se crée aussi un personnage, non?
Un peu comme toi, Christophe.
Mais toi aussi, tu t'es créé un personnage. Toi aussi, t'es mystérieux.
Mylène Farmer.
Toi aussi, évidemment, on a envie d'en savoir un peu plus sur toi.
Attendez, les gars, c'était pas une immense star, elle remplirait pas le Stade de France.
On n'a pas dit ça.
C'est une immense star. C'est pas une star, on a dit qu'on aimait pas.
Dans le stade, on peut pas tous y aller, donc il faut bien dire qu'il aime pas trop.
Exactement. Hein, bravo Mylène Farmer en tout cas pour ces trois dates au Stade Farmer de France. Je ne sais pas si on lui a fait une bonne promo, mais en tout cas, on en a parlé.
Moi, je t'adore, Mylène. Allez-y, allez-y, nous on ira
pas. Tu voulais être sûr de ne pas nous voir, allez-y.
Et si vous avez des places en trop, envoyez-les à Marion parce que nous, on ne les prend pas.
Alors, un jeu à vous faire gagner ce matin. Le jeu de foot le plus attendu de l'année, c'est EA Sport FC 25 qui vient de sortir et on vous l'offre déjà grâce à Micromania Zing. Alors, si vous avez la main chanceuse, vous pourrez gagner la Super Bowl RMC avec nous à l'intérieur. Le jeu, mais aussi une télé et une PS5. Au moment du top inscription, vous aurez 5 minutes pour envoyer Super au 732-16. Super au 732-16 et un grand gagnant sera avec nous dans cette émission. Hier, il est reparti avec le jeu et avec la PS5. Ça peut vous aussi vous arriver. Ce sera un petit peu plus tard, le top inscription dans cette émission. On va débuter avec cette citation de Georges Goubidi qui a dit un jour, face aux erreurs, si les torts sont partagés, les sanctions ne le sont jamais.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Sidor qui change, qui va sur le coup droit, qui lâche le coup droit, c'est gagné. C'est gagné. Yannick Sidor qui s'allonge sur le dos. Il remporte son premier grand chelem. Il met fin à une insupportable attente pour le tennis italien.
Il a improvisé.
Il a triché.
Il s'est adapté et il a dominé.
Sinner triomphe en 5 manches fantastiques. 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. Medvedev qui gagne, félicité. Quelle finale, quelle finale.
Tricheur, oh, mauvais joueur.
C'est pas correct.
Bon voilà, et ça vient, et c'est venu. Il lève les bras aussi à Yannick Sinner. Il remporte l'US Open. Soulagement, pas de joie folle comme en Australie.
Mais tu as la même gueule que les élèves de collège quand ils trichent.
Mais là, il a fait le job. 6-3, 6-4.
C'est pas cool quoi, quand tu vois comment d'autres dossiers ont été gérés et que lui il a pu continuer à jouer et puis d'un autre côté ils disent qu'il est blanchi mais il perd ses points et à Indian Wells, c'est un peu bizarre.
I kept playing tennis.
En ce qui me concerne, je crois que j'ai continué à jouer au tennis parce que dans mon esprit je savais que je n'avais rien fait de mal. J'ai toujours eu l'intention d'être un joueur loyal. Évidemment, cette affaire pourrait changer certaines choses, mais ceux qui me connaissent très bien savent que je n'ai jamais fait et que je ne ferai jamais quelque chose qui va à l'encontre des règles.
Je vais désormais mettre cet épisode difficile et regrettable derrière moi. Ces mots sont signés Yannick Sinner, fin août, après le verdict rendu par le tribunal indépendant de l'ITIA. L'Italien venait en effet d'être innocenté après son double contrôle positif au Close Table début mars. Mais finalement, cet épisode va se retrouver de nouveau devant lui. L'Agence mondiale antidopage, on en a parlé hier, a décidé de faire appel de cette décision devant le tribunal arbitral du sport et réclame 1 à 2 ans de suspension pour le numéro 1 mondial. L'AMA ne semble pas remettre en cause la thèse de la contamination par le massage de son kiné, vous vous en souvenez, mais estime que la conclusion, je cite, d'absence de faute ou de négligence n'est pas correcte au regard des règles applicables. Comprenez, même si Sinner dit vrai, il doit quand même être coupable de quelque chose. La musique qui fout les jetons est cette question. Cette décision de l'AMA est-elle totalement justifiée? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Oui.
Fred Weiss.
Non.
Marion Bartoli.
Plutôt non.
Jérôme Pinault.
Oui.
Avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste tennis, Eric Salio. Salut Eric.
Salut JC, salut à tous.
Pour quelques précisions avec toi, Yannick Sinner a donc connu ces dernières heures une deuxième déflagration dans sa carrière.
Oui, pour l'Italien, c'est une énorme contrariété. Il pensait vraiment être débarrassé de cette affaire depuis le 20 août et la décision de l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis qui avait admis une contamination, disons malheureuse, pour rentrer dans les détails après. Curieusement, l'Agence mondiale antidopage a communiqué cette information samedi, donc hier. Alors pendant que Yannick Sinner jouait son 8e de finale à Pékin, évidemment, en conférence de presse, le numéro mondial était interrogé sur le sujet.
Surprise, but...
Ouais, c'est une surprise. On va encore parler des mêmes choses. Peut-être ils veulent juste vérifier que tout est en ordre. Mais ouais, je suis surpris qu'ils fassent appel.
I'm just surprised that they appealed.
Ouais, on est donc parti pour une nouvelle bataille d'avocats avec en bout de ligne un passage devant le tribunal arbitral du sport de Lausanne, seul compétent en la matière. Et Sinner va devoir répéter comment le Close Table s'est retrouvé dans ses urines. Revenons sur ce qu'il avait dit à l'US Open.
The thing is very simple in one way. So it
went, quand ils nous ont informé que j'avais été testé positif, la première chose que nous avons essayé de faire, c'est savoir de quelle substance il s'agissait. Mon préparateur physique, Umberto, est le gars qui connaît vraiment, vraiment bien tout ce processus. Nous lui avons donc demandé et il a tout de suite su que c'était son spray. Sachant qu'il s'agissait du spray et sachant aussi comment il s'était retrouvé dans mon système, et nous leur avons expliqué tout ce qui s'était passé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu la chance de continuer à jouer.
Lamar réclame une peine d'au moins un an de suspension. Le numéro mondial va donc évoluer pendant a priori 3 mois avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il est soutenu par sa fédération, Papa Nick Kyrgios, qui l'a mis un joli taquet sur Instagram. Mais l'Italien, on le sait, a la tête solide. On se demande même comment il fait pour accumuler les victoires avec cette menace qui plane.
Merci beaucoup Eric Salio. Tu restes avec nous pour ce débat et pour ces explications ce matin. La décision de Lama est-elle totalement justifiée? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Je sais que Marion, tu as travaillé sur le sujet et tu vas nous apporter évidemment quelques éclairages. Commençons déjà avec un premier tour de table. Pourquoi tu dis oui, Jérôme Pinault?
Bah parce que Lama est la référence dans la matière, et que si elle a des doutes, elle doit reprendre le dossier et aller au bout. C'est le pouvoir suprême, Lama. Et si elle considère que l'étude doit être approfondie et que les sanctions doivent être mises en face de l'erreur, bah, il faut y aller maintenant. Après, ce qui est regrettable, c'est qu'il y ait tout ce parcours de c'est les uns, c'est les autres, il est suspendu, puis suspendu. À un moment donné, Lama doit y aller et prendre cette décision. Et
mais après, c'est sain pour toi? Cette décision est saine?
Non, c'est sain. Je dis pas que c'est sain parce qu'elle aurait pris, elle aurait dû prendre cette décision avant. Je prends l'égal de mon sport, Lama décide et c'est terminé quoi. T'es suspendu, il y a pas. Mais le tennis est particulier. Il y a cette ITIA là entre les deux qui essaye de s'arranger pour pas punir le grand champion et plutôt aller chercher des cas un peu moins connus pour dire qu'ils existent et qu'ils ont le besoin d'exister et qu'ils servent à quelque chose. Maintenant, si Lama décide de s'en remettre à ce qu'ils vont eux avec les biologistes et les décideurs de mettre en place une sanction envers lui après étude, je pense qu'il est mal. Parce que Lama, une fois qu'elle aura décidé, il n'y a plus de recours possible.
Ok, plutôt non pour toi, Fred Weiss.
Plutôt non, parce qu'il n'y avait pas la réponse, ça me gonfle. Donc j'ai dit non, mais ça me gonfle, j'en ai marre. Ça devient insupportable, on ne comprend rien. Moi qui suis un petit peu extérieur au tennis, en fait, un coup il peut jouer, un coup il ne peut pas jouer. Ah non, par contre, c'est un de mes sports préférés, malheureusement. Tu vois, c'est un mauvais choix. Alors, ce n'est pas le vélo que je n'aime pas du tout. mais par contre, le tennis, j'adore. Non, mais concrètement, à un moment, il peut jouer. À un moment, il est suspendu. À un moment, il peut jouer. Et finalement, Lama arrive, on ne sait pas comment, comme un cheveu sur la soupe, en disant non, mais on va quand même vérifier ce qu'a dit Lidia. Donc, à quoi sert Lidia? Déjà, pourquoi de là-bas directement ne prend pas des décisions? Pourquoi c'est aussi tardif? Pourquoi il y a autant de rebondissements? Est-ce que franchement, ça sert le sport de se dire que finalement, même là-bas ne fait pas confiance à Lidia? Donc je n'y comprends rien. C'est un flou, ça me gonfle, j'en ai marre de cette affaire et ça ne m'intéresse quasiment plus.
Ok, d'autres éléments de réponse avec Marion dans quelques instants. Christophe?
Oui, moi non plus, ça ne m'intéresse plus. Et puis de toute manière, les excuses sont toujours les mêmes. De toute façon, ce n'est pas moi qui me suis dopé. Je me suis fait doper à l'insu de mon plein gré. C'est la faute des suppléments alimentaires. C'est la faute de mon masseur. Ok, moi je suis très content, en tout cas, que l'AMA prenne les choses en main. Parce que cette ITIA, cette agence international pour l'intégrité du tennis, moi j'y crois pas, j'ai pas confiance en elle. C'est une agence qui a été montée par les gens du tennis pour juger les gens du tennis. Donc évidemment, quand t'as là le numéro 1 mondial qui fait beaucoup de bien au tennis mondial, eh ben tu peux être amené à avoir un peu plus de mansuétude pour ce garçon là plutôt que pour un athlète venant d'une autre discipline. Donc je suis très content que l'AMA prenne les choses en main. Elle va regarder, elle va observer et ensuite elle jugera. Après, il faut faire attention aussi au problème de politique entre les agents. C'est-à-dire que Lama voit Lidia arriver un peu comme une concurrente et sans doute qu'elle a envie de lui taper, taper sur la tête.
C'est une évidence.
Voilà. Mais de toute façon, on ne saura jamais, jamais dans l'histoire ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Si Sinner a vraiment pris ce produit pour améliorer ses performances ou s'il a été victime, comme beaucoup d'autres, d'un kidam qui est venu le doper. Et de toute façon, ça sera toujours la même chose pour toutes les affaires de dopage.
Mais par contre, il y a une mesure quand même qui est juste hallucinante par rapport au sport pratiqué et à la sanction, c'est que le tennisman dit « Moi, ce produit est arrivé par massage, on ne va pas refaire l'histoire. » Remets-le dans le contexte. Donc, le masseur, c'est quand même un mec de son staff, on est d'accord, c'est lui qui le paye. Imagine la même chose sur un coureur cycliste qui dit « Ouais, mais c'est pas moi, c'est mon soigneur. » Il est mort, le mec.
Bah d'ailleurs, ça a déjà été utilisé.
Oui, oui, et puis on parle. Les résultats sont infimes.
Hein, et alors, Contador, il y avait combien?
C'est la même chose.
Ok, Marion Bartoli, sur ce dossier justement, dans le monde du tennis, ça a été encore une déflagration hier.
Alors, j'ai essayé de reprendre les faits un par un et je vous assure que j'ai beaucoup bossé, c'est extrêmement compliqué. Bon, d'abord, la fameuse ITIA a pondu quand même un rapport de 33 pages. JC, je te l'ai envoyé dans notre groupe WhatsApp, en En fait, ils ont fait plusieurs choses. Ils ont d'abord retracé tous les faits. Donc, ils ont retracé le nom exact du produit précis acheté dans quelle pharmacie, à quel endroit, à quelle date par le fameux coach entraîneur physique Umberto Ferrara pour traiter la plaie ensuite du kiné qui a massé Yannick Sinner. Ensuite, ils ont mis toutes les jurisprudences avec les quatre jurisprudences dans tous les sports qui pourraient être à peu près équivalents à ceux d'Yannick Sinner. J'ai essayé de lire vraiment, mais ligne par ligne, c'est quasiment à ne rien ni comprendre. C'est-à-dire qu'une fois, ils disent une chose, une fois, tu es à peu près dans le même cas, mais ils disent l'opposé. Donc, c'est très difficile d'arriver à se faire un avis. Ce qui est de manière certaine, aujourd'hui, dans les faits qu'on a actuellement sous les yeux. L'ITIA a mandaté 3 experts qui sont reconnus par l'AMA pour pouvoir l'aider dans le jugement du cas de Sinner qui a obtenu effectivement le fait qu'il pouvait continuer à jouer juste avant le début du US Open. Et on a le directeur du laboratoire de Montréal, qui s'appelle Jean-François Naud, on a le directeur du laboratoire de Rome et un ancien directeur du laboratoire de Londres. Ces 3 experts ont été mandatés par l'ITIA, sont reconnus par l'AMA pour pouvoir avoir jugé le cas juste avant l'US Open, avec le résultat qu'on connaît. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'AMA remet en cause? En fait, l'AMA remet en cause le principe fondamental qui effectivement est dicté dans toutes les règles d'antidopage et documents que vous devez signer avant que vous commenciez votre année en tennis, c'est-à-dire que vous devez être responsable, quel que soit le degré de responsabilité, de tout ce qui arrive dans votre corps. Donc même si, entre guillemets, ça vous est quasiment impossible de savoir s'il y a un membre de votre staff qui a mis une crème ou un spray qui contient un produit dopant, etc., vous êtes responsable dans votre entièreté de ce qui arrive dans votre corps. Et donc, quoi qu'il arrive, ça vous retombera dessus.
Mais donc, il n'y a pas besoin de jugement, parce que c'est le cas, alors, attends, c'est exactement
attends,
ce qui
attends,
est
attends.
Passé.
Mais alors, c'est là où ça devient compliqué, c'est là où c'est très compliqué. Le problème du Clostebol, c'est que dans la liste des produits dopants, comme c'est considéré comme un produit que l'organisme humain ne produit pas, donc n'est pas capable de, on n'a pas d'étaux, on va dire, qui vont différer d'une personne à une autre en fonction de sa génétique, il n'y a aucune notion de seuil qui rentre en compte. Et c'est là où je veux en venir, c'est que le seuil détecté dans les urines de Yannick Sinner avec ses contrôles positifs au mois de mars était de 0 point. Il y a 8 zéros et ensuite il y a 1. D'accord, donc c'est effectivement une quantité qui devient totalement négligeable. Mais comme il n'y a pas dans ce produit-là de notion de seuil, quelle que soit la quantité détectée, qu'elle soit 1000 fois plus importante ou extrêmement infime,
c'est considéré comme positif.
C'est considéré comme positif. Et c'est là où la nébuleuse commence à rentrer en compte. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à me faire un avis. C'est que effectivement, dans les règles pures et dures, on vous dit que vous devez absolument maîtriser tout ce qui arrive. Mais comment est-ce possible pour un joueur? Alors, le fameux produit s'appelle du trofodermin, okay, qui a été acheté par le fameux préparateur physique à Bologne en Italie pour éventuellement soigner une plaie personnelle. Finalement, c'est le kiné qui se fait cette plaie, il lui met le produit. Et donc, comme Yannick Sinner a du psoriasis, avec le contact sur la peau, avec le massage, ça finit par arriver dans son organisme à des quantités qui sont totalement infimes et ridicules. Est-ce que ça vaut 1 ou 2 ans de suspension?
Est-ce que ça, c'est la vraie version? C'est ça le truc.
Et ça, c'est toute la question, sauf que l'AMA ne remet pas en cause.
L'AMA ne remet pas en cause
la thèse de Sinner.
Non, mais l'AMA, elle dit quoi? Elle va juger une chose. Un produit qui n'est pas produit par l'organisme s'est retrouvé dans son corps. Qu'il soit pris par l'athlète lui-même, qu'il vienne d'une personne de son staff, ce produit n'avait rien à faire dans son organisme. Est-ce qu'on suspend oui ou non? Évidemment. À partir du moment où, dans le sport, on ne va pas prendre une loi très simple, tu as un produit dans le corps qui est interdit, qui peut laisser
non,
supposer...
Mais Jérôme, pas dans des quantités comme ça, et d'accord. Pas sur donc, la manière dont c'est que, contaminé.
Donc,
tu vois,
Alberto Contador, avec le clombutérol, à 0,000, c'était qu'il avait mangé un steak. Tu y crois encore, toi? Après tout ce qu'on a su dans le vélo. Et qui te dit que c'est pas une transfusion sanguine et qu'il y avait des traces de ce produit-là? Il est là le problème.
Ouais, mais le sujet n'est pas là.
Non, mais franchement, sur Sinner, j'ai beaucoup de mal et je veux pas
Ah, mais oui, non, mais sur Sinner, t'as beaucoup de mal. Mais sur les autres, dans d'autres disciplines, t'as moins de mal. C'est un peu le problème.
Je reprends la main et vous pouvez continuer d'en parler dans quelques instants. On continue de débattre sur Yannick Sinner. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h34 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Christophe Cessieux, Marion Bartoli, Fred Weiss, Jérôme Pinault. Un instant, restons sur le cas Yannick Sinner avec cette décision de Lama qui a demandé une suspension pour le numéro 1 mondial d'un à deux ans. Et forcément, cette décision nous interpelle. Est-elle totalement justifiée? C'est notre débat dans quelques instants. On vous attend, chers auditeurs, au 32-16. Je rappelle évidemment que Lama, et on l'a dit précédemment, que Lama ne remet pas forcément en cause la version de Sinner. D'ailleurs, une version qui a été estimée tout à fait plausible par trois experts scientifiques reconnus par Lama. Oui. Mais ce qui gêne Lama, évidemment, c'est que, eh bien, même si c'est à son corps défendant, sans mauvais jeu de mots, malheureusement, eh bien, il doit quand même y avoir une sanction. En tout cas, c'est ce que demande Lama. Cette décision, comme d'ailleurs la décision quand ce tollé a eu lieu, Eric Salio, sur cette affaire de dopage qui a été révélée, Yannick Sinner a été prévenu un petit peu en amont. Nous, on l'a appris hier matin, mais lui a été prévenu.
Oui, non,
il
a. Ses avocats ont reçu l'information jeudi. Non, mais je voudrais poser une question à Marion. Imagine, tu te retrouves dans le cas de Sinner, tu découvres que tu es prise positive, tu fais le fil de l'affaire et tu découvres que c'est ton kiné donc, qui, effectivement, a commis une boulette. Qu'est-ce que tu fais? Tu le vires tout de suite? Parce que ce qui est curieux, c'est que Sinner, il a gardé son staff jusqu'à Roland-Garros.
Tant que l'affaire n'avait pas été révélée.
Absolument. Moi, ça m'interpelle.
Alors que lui, il savait.
Bien sûr, il savait.
Donc, il a gardé le même... Mais ça, je suis d'accord avec lui. C'est plutôt à charge contre lui.
Je comprends pas.
Bah, tu poses la question.
Est-ce qu'il savait aussi que ça venait de
Mais oui,
de
puisqu'ils ont fait appel le 3 avril. Le 3 avril, il est suspendu. Un jour, contre-appel. Parce que les avocats avaient déjà bossé sur le dossier. Et deuxième suspension le 16 et le 17 avril, ils font de nouveau appel. Donc ils avaient le même argumentaire. Et il a gardé le même staff. Je comprends pas.
Bah Marion, est-ce que ça t'interpelle?
C'est une faute professionnelle.
C'est très compliqué parce que Sinner, moi pour l'avoir interviewé à de très nombreuses reprises, que ça soit à Roland-Garros ou que ça soit à l'US Open... C'est pas quelqu'un qui est agressif, c'est pas quelqu'un qui prend des décisions en mettant la faute sur les autres, c'est quelqu'un qui est plutôt extrêmement réfléchi, extrêmement posé. Après, il a fini par effectivement évincer ces deux personnes de son staff, mais je pense qu'au départ, comme en plus ils ont été avec lui pendant extrêmement longtemps, qu'ils l'ont amené jusqu'à ce niveau-là, qu'il y ait une micro-faute commise de cette façon-ci, qui a encore une fois été reconnue, puisque le taux retrouvé dans ces analyses urinaires sont de 121 picogrammes par millilitre. Donc c'est 1 puissance 12. Donc on est effectivement dans des dosages qui sont infinitésimales. Donc de se dire que on va remettre toutes des années de travail ensemble avec une proximité qui s'est créée, un lien de confiance pour ça.
Mais d'accord,
il y a faute, mais je pense qu'il a voulu.
C'est cette partie-là qui est quand même nébuleuse. Comprendre que lui le sait. Il fait son argumentaire sur ça en expliquant j'ai été contaminé, oui, mais par mon masseur, etc. Et après, il se dit je vais le garder jusqu'à un certain temps.
Jusqu'à ce que ça sache.
Et à partir du moment où ça se sait, ben là, je m'en sépare. Bah oui, c'est quand même ultra nébuleux, Marion. Tu peux pas dire autre chose.
Il s'en est séparé parce qu'il a eu aussi des problèmes de blessure avec une blessure récurrente à la hanche et que peut-être qu'il a considéré qu'à un moment donné.
Au moment où l'histoire, elle sort. C'est quand même un peu gros, l'histoire.
Il avait des blessures à la hanche au niveau de Madrid où il arrive même plus, il boitait sur le terrain, même à Roland-Garros,
oui, à un moment donné, il boitait sur le terrain. Donc, s'en séparer. À partir du moment où c'est révélé dans la presse, il ne peut plus faire autrement, quelque part.
Oui, à ce moment-là, exactement. Mais je pense qu'il a essayé au maximum déjà de préserver ces gens-là et puis de ne pas prendre des décisions à l'emporte-pièce.
Mais il savait que ça allait sortir dans la presse. C'était une évidence que ça allait sortir dans la presse. Donc, en fait, l'image que ça donne, Marion, c'est pour me protéger, je l'ai viré à ce moment-là parce que le fait que ça sorte.
Non.
Mais c'est pas possible, ça ne sort pas.
Non, pas pour ce.
C'est possible.
C'est le tennis, attention.
Ah bah, si ça ne sort pas, c'est
encore
pire.
C'est obligatoire. C'était obligatoire que cette affaire sorte de toute façon. Pour moi, ce qui est certain, c'est que pour l'avoir eu, mais à vraiment quelques centimètres de moi quand je l'interviewais sur Sky Sport à l'US Open après ses victoires, pour l'avoir vu de la manière dont il a fonctionné sur Cincinnati sur l'US Open, pour l'avoir vu sur sa semaine qui a précédé l'US Open où il a eu des interviews vraiment poussées en one-to-one avec des grosses chaînes américaines. Je ne vois pas quelqu'un qui a commis une faute. Alors après, ça reste que mon jugement personnel.
Non, mais là, c'est là, Marion.
Ça reste
là,
que...
Marion,
non, mais je vous donne mon avis.
C'est de la naïveté, Marion, arrête.
Mais non, mais je vous donne mon avis.
Hélène Armstrong, elle a été pendant des années à dire, mais allez-y, venez mon contrôle. Non, mais ça,
est-ce que tu as déjà vu un athlète pris pour contre l'antidopage dire, oui, mea culpa, mea maxima culpa, je me suis dopé. Dans toute l'histoire du dopage, il y a toujours eu la même défense, Marion.
Ne comparez pas, si te... Non, mais ne comparez pas.
Ah ben non,
Arrêtez,
c'est pas possible d'entendre ce genre de truc.
Tu vas pas me dire qu'à un moment donné, dans le peloton du vélo, il n'y avait pas un dopage institutionnel. Écoute, arrête, Christophe, quand même.
Mais on sait très bien, on sait tous. Aujourd'hui. Non, mais
donc
ça,
voilà.
Je restitue le débat.
Dans le tennis, tout va bien.
Non, mais c'est pas ça que Marion dit. Je prends pas sa défense. Mais si. J'ai juste que malheureusement, le vélo a été éclaboussé par ce genre d'affaires et donc ça colle à la peau comme un sparadrap qu'on n'arrive pas
le tennis,
à enlever.
Mais le tennis aussi, mec. Le tennis. Moi aujourd'hui, je vais aller voir un match de Sinner. Il est pas crédible à mes yeux. Et il y a beaucoup de cas dans le tennis qui
appartient. Jugement. Et ça, il t'appartient. Ce que je veux dire, c'est que
jugement. En disant le vélo, c'est
ou pas, ça vous avez certainement raison, il faut se poser les bonnes questions.
Moi je suis
juste que
on a déjà posé la question,
je suis pas de la même réputation, c'est ça.
Exactement.
Il a toujours su se protéger et blanchir,
mais évidemment
ne peut pas le faire.
Exactement. J'ai posé la question tout à l'heure, est-ce qu'on a droit aux AUT? A priori on a le droit de faire une AUT dans le tennis aussi.
C'est quoi l'AUT?
C'est une autorisation,
une ordonnance thérapeutique.
Okay. C'est-à-dire que le mec qui veut bricoler, il fait ça et comme ça, il a le droit de le faire, mais il l'a dit. Tu vois, c'est un peu ça quand même. On ne va pas se le cacher.
Non, mais encore une fois, je ne peux pas te laisser dire des trucs pareils. Okay. Les ordonnances thérapeutiques aujourd'hui dans le tennis, mais vous faites un truc complètement extrême et réducteur, comme si entre guillemets tous les joueurs de tennis étaient en train de gauler pour essayer de se doper.
Et toi, tu ne crois pas que c'est un truc réducteur en disant que le vélo est un
truc. J'ai joué pendant 15 ans au plus haut niveau.
Tu prends exactement la même méthode, Marion, donc arrête.
Non mais tu vas pas quand même pas comparer le dopage par rapport à une ordonnance thérapeutique. Mais non mais s'il te plaît, une ordonnance thérapeutique, il faut quand même employer les mots tels qu'ils sont. Une ordonnance thérapeutique, il faut avoir le jugement de plusieurs médecins qui sont complètement indépendants, prouver que vous avez une maladie réelle qui vous autorise à avoir une ordonnance thérapeutique sur une période qui doit être restreinte et qui est dans une période qui est extrêmement précise. Et si celle-ci doit être renouvelée pour des raisons médicales qui sont importantes, à ce moment-là, elle doit être encore une fois repassée devant un panel d'experts. Donc on peut pas dire que vous faites une TUE comme ça, porte-pièce et que vous allez à la pharmacie, vous achetez ce que vous voulez. Il faut quand même arrêter d'avoir des raisonnements si réducteurs, je suis désolée. On ne peut pas dire ça à l'antenne en expliquant aux gens que vous faites des TUE comme vous voulez, vous allez vous doper en allant acheter ce que vous voulez à la pharmacie. Il ne faut quand même pas exagérer non plus.
Mais ce qui est sûr, c'est que cette, et tu l'as dit et tu l'as rappelé, Eric, cette histoire jette un trouble et forcément l'image du tennis est détériorée à cause de cette histoire. Il peut continuer de jouer, hein, Eric Salio, il faut le rappeler, hein, pendant cet appel, ouais, en tout cas cette demande de la
résultats. Et ces résultats obtenus ne seront pas remis en question. Donc son titre à Miami, son titre à Cincinnati, son titre à l'US Open ne seront pas remis en question.
Ça fait partie de la nébuleuse qu'on ne comprend pas. Comment on peut ne pas remettre en cause des titres alors qu'ils devraient être suspendus?
Je t'explique. Parce qu'en fait, le problème, c'est que Lama est à cheval sur sa fameuse règle de pas de faute, pas de négligence. Et que pour eux, dans leur manière dont ils ont créé leurs règles, quelle que soit la manière dont le produit est arrivé dans ton corps, tu es responsable. Voilà là, sur quoi ils attaquent.
Le TAS tranchera, voilà.
Mais
pour l'instant, il peut jouer.
Il a des échéances importantes, on le verra à Bercy, il jouera le Masters.
Et peut-être l'Open d'Australie avec toujours cette épée d'Amoclès.
Peut-être l'Open d'Australie.
De toute façon, c'est le TAS qui donnera son dernier jugement.
Ok, c'était très clair. Évidemment, toutes les dernières informations à retrouver sur rmcsport.fr. Merci beaucoup, Eric Salio, d'avoir été avec nous ce matin. Voilà, t'es bien remonté, comme ça, tu peux passer un bon dimanche.
Faire un petit tennis, tiens.
Exactement.
Si tu veux une AUT, tu
n'oublies pas ton AUT, ouais.
Ouais, comme les cyclistes.
Et n'oublie pas ton masseur, évidemment. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Le zapping des GG, on s'en fout pas, avec notamment le retour de Melvin Jaminet avec Toulon, ou encore, on vous parlait de MMA hier, la défaite de Benoît Saint-Denis. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h47 de retour dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, Marion Bartoli, Jérôme Pinault, Fred Weiss. Ce matin, à partir de 10h, on parle de ce choc en top 14 entre le Stade Toulousain et l'UBB, deux prétendants à la victoire finale. Mais l'UBB a décidé de faire reposer des cadres pour cette affiche de rêve. Est-ce une honte pour le top 14? C'est le bras de fer et ce sera un 2 contre 2 dans quelques instants. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Des informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est Frédéric Fautou, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de basket qui pourrait envisager un retour de Thomas Hurtel. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Je vais laisser Fred parler.
Il laisse, Fred Face.
On s'en fout pas.
Marion Bartoli.
Je m'en fous.
Jérôme Pinault.
Je m'en fous pas.
Tu ne t'en fous pas. Le nouveau sélectionneur donc de l'équipe de France, Frédéric Fautoux, a ouvert la porte à un retour de Thomas Hurtel avec les Bleus. Je rappelle que le meneur tricolore n'a plus joué en équipe de France depuis son départ au Zénith Saint-Pétersbourg. Et donc, en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, eh bien, l'équipe de France ne voulait plus de joueurs qui jouaient en Russie. Mais il vient de signer en Chine. Du coup, Frédéric Fautoux, qui sera l'invité de Stephen Brunch tout à l'heure à partir de 13h, eh bien, en a parlé avec Stephen. C'était hier pour l'interview. Je vous propose de l'écouter.
Non, mais c'est une question qui a été posée, que moi j'ai posée aussi à la fédération. Parce que ça reste un superbe joueur de basket. Mais ça ne dépend pas que de moi, en fait, ce sujet-là, puisque ça a été le bureau fédéral qui a choisi, qui a décidé aussi de le mettre sur le côté. Mais on m'a dit que si je le voulais absolument, il faudra que je fasse une demande et que le bureau fédéral choisisse de le réintégrer ou pas dans les équipes, pour l'équipe nationale. On va pas se mentir, Thomas, c'est un excellent joueur de basket, quoi. Donc s'il est performant, que l'équipe de France en a besoin, c'est pas impossible que je fasse la demande à la fédération demain. Voilà.
L'intégralité de l'interview est donc à retrouver à partir de 13h dans Stephen Brunch avec Stephen Brun. Oui, Fred Weiss.
Alors, j'ai été très virulent contre Thomas Hurtel quand il est parti en Russie. Je trouvais ça scandaleux, je trouvais ça affreux. Mais je me dis qu'on a tous le droit à une seconde chance. Effectivement, c'est un très bon joueur de basket. Effectivement, il ne joue plus en Russie. Effectivement, il y a un nouveau coach, nouveau sélectionneur qui arrive en équipe de France et qu'il ait envie d'avoir toutes les forces vives quand on a un meneur de cette qualité. Je peux l'entendre. Alors, ça m'énerve un petit peu dans profondément parce que concrètement, les choix qu'a fait Thomas Hurtel m'ont beaucoup ennuyé. Mais on va dire que je peux concevoir que Freddy Fautoux et envie de le récupérer.
Ok, très bien. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est l'immense déception pour Benoît Saint-Denis à l'UFC Paris. On s'en fout, on s'en fout pas. Jérôme Pinault.
On s'en fout pas.
Fred Weiss.
On s'en fout pas.
Christophe Cessieux.
Je m'en fous.
Marion Bartoli.
Je m'en fous complètement.
Ok, impuissant pendant deux rounds. Eh bien, Benoît Saint-Denis s'est incliné après décision médicale face à Renato Moicano lors du main event disputé hier soir de l'UFC Paris 3. Il a été sévèrement touché aux yeux et le Français a été empêché par le médecin de reprendre le combat au troisième round. Il faut savoir qu'il s'agit de sa troisième défaite, la troisième défaite de sa carrière dans cette compétition, six mois après son échec face à Dustin Poirier. Écoutez Benoît Saint-Denis après son combat.
Vous êtes le meilleur public du monde, sachez-le. C'est incroyable de vous avoir à nos côtés, votre soutien est incroyable. Voilà, malheureusement j'étais un peu endormi au premier round, donc il a fait ce qu'il fallait pour créer suffisamment de dégâts pour jouer le Matador. Donc désolé pour ça, je reviendrai plus fort, je suis désolé, bravo à lui. Et voilà, qui vit par l'épée, périt par l'épée, merci à tous.
Et voilà pour la réaction de Benoît Saint-Denis. Alors il faut savoir que Renato Moicano a aussi eu la parole devant le public.
Magnifique la réaction.
Il a eu la parole devant le public. Et je vous propose de l'écouter. Alors on l'a pas traduit, pas besoin, mais il s'attaque, on ne sait pas pourquoi, au gouvernement français et au président de la République, Emmanuel Macron.
Who do you want next? Fuck Macron! Fuck all globalists! Fuck all these motherfucking globalists! They're trying to push a politically corrupt agenda.
Voilà, vous avez compris ce qu'il a dit sur Emmanuel Macron et aussi sur les médias qui soutiennent le gouvernement en place. Jérôme.
Bah non, mais c'est pour ça que je voulais. On s'en fout pas.
Je m'en fous pas. Moi, je m'en foutais du combat.
J'ai vu la réaction. Et après, il invite Saint-Denis à venir s'entraîner avec lui aussi. Et le mec est complètement. Et ça, je suis désolé. Il y a beaucoup de détracteurs pour l'UFC. Beaucoup trouvent ça trop violent, plus. Pas montrable. Et avec ça,
longtemps interdit en France, l'UFC.
Et avec ça, ouais. On y retourne. On peut pas donner la parole à ces gens-là, en fait. ils viennent faire un sport, ok, pour un public particulier, mais prendre ce genre de prise de parole, il faut l'éteindre, c'est le mec. Sûr. Alors c'est lui qui éteint ses adversaires sur le ring, mais lui il faut juste, enfin, ce genre de choses là doit être contrôlé. On peut pas faire ça. On n'a pas le droit de monter un spectacle qui coûte très cher. Les gens payent pour ça. Ça passe à la télévision. Et le mec a un discours, mais t'imagines si c'est toute autre personne qu'un sportif dans une cage qui vient de se battre.
Non, mais sachant qu'il y a eu un autre combat où un Français s'est fait battre aussi par KO, et le mec il est sorti en faisant des doigts d'honneur à tout le monde.
Mais bien sûr,
ça part complètement en vrille.
Bonjour, le sport n'est pas moins respectable
qu'un autre, mais effectivement, quand ils prennent la parole, quand ils ont ce genre d'attitude, c'est pas une belle publicité quand même.
Bon, sur le volet sportif, il y a eu 6 victoires françaises, évidemment, le résumé de tous ces combats, c'est sur rmcsport.fr et sur.
C'est mis sous l'été noir par le comportement de ces mecs-là après le combat, quoi.
C'est dommage, parce que ça ruine la
réputation de ce sport et de ces fantastiques combats qu'ils livrent. Mais franchement, surtout ne leur donnez pas la parole à ces mecs-là.
Laissez-les
combattre et ensuite vous les renvoyez dans le cas, quoi.
Ok, troisième information dans le zapping des GG à vous donner. C'est le retour de Melvin Jaminet avec le RCT. On s'en fout pas, Christophe Cessieux.
Je m'en fous pas.
Okay. Je m'en fous pas.
Fred Weiss, Marion Bartoli.
Je m'en fous pas.
Jérôme Pinault.
Bon, je m'en fous pas, mais je vais laisser partir les autres parce qu'il y a tant de choses à dire.
Suspendu 34 semaines par la FFR et son club de Toulon après avoir, vous le savez, tenu des propos racistes dans une vidéo après le premier test match des Bleus à Mendoza en Argentine. Melvin Jaminet a donc repris l'entraînement aux côtés de ses coéquipiers cette semaine. Il ne pourra pas jouer officiellement avant le début de l'année 2025, mais l'arrière de 25 ans revient progressivement dans l'effectif. Sachez que Melvin Jaminet a pris la parole à plusieurs reprises devant ses coéquipiers. Il participera très bientôt à des actions de sensibilisation suite à cette affaire du dérapage raciste. Je vous propose d'écouter le talonneur du RCT, Teddy Bobigny.
Écoute, oui, il est revenu. Il s'adressait à l'équipe parce que c'était quelque chose de normal et je pense de nécessaire. Pour nous, les joueurs, en tout cas, très contents de retrouver un joueur qui est important dans l'effectif, qui est très doué. Donc, même s'il ne jouera pas, il remet les pieds sur le terrain et c'est un bon joueur de plus parmi nous.
Christophe Cessieux.
Ouais, bah bon, moi, évidemment, il a fauté, il a été puni, 6 mois de suspension. Florian Grill, le président de la Fédé, a dit cette semaine que de toute façon, Jaminet et l'équipe de France, c'était désormais incompatible. Maintenant, voilà, et après avoir été puni, tu dois pouvoir quand même continuer à exercer ton métier. Donc moi, je trouve logique, normal, qu'il puisse à nouveau s'entraîner avec ses camarades et continuer à purger sa peine jusqu'à ce qu'il soit autorisé à jouer. Voilà, c'est normal, toute faute mérite punition. Mais après avoir été puni, tu as le droit de rentrer. Tu vas pas le priver de son métier. Et puis en plus, moi, j'ai l'impression quand même que Jaminet, qui est le seul à se faire vraiment prendre par la patrouille parce que ses propos ont été enregistrés, mais il paye un peu pour tous les errements du rugby français cet été. Mais je ne vais pas du tout dire que ce qu'il a fait est bien. Hein. Franchement, c'est complètement ridicule. Ces insultes racistes filmées alors qu'il était complètement bourré. Non, franchement, on n'a pas envie d'entendre ça. Mais après, bon, il a tué personne et il a le droit, lui aussi, à une deuxième chance quand il aura purgé sa peine.
Ok, deuxième chance de Melvin Jaminet. Pardon, Marion Bartoli, je sais que ça te fait dresser les poils cette histoire, mais là, on n'a plus trop le temps d'en parler. On en reparlera dans cette émission. Forcément, le droit à la seconde chance, on en a souvent parlé.
Non, j'imagine, mais je suis d'accord avec Christophe sur ce qu'il a dit.
Et j'imagine que ce qui est le plus difficile, évidemment, c'est d'entrer désormais dans un vestiaire.
Ouais, c'est la punition la plus lourde, ça va être
d'entrer sur le terrain.
Sur le vestiaire.
Les supporters du RCT sont parfois d'origine et
il a été obligé d'aller s'expliquer déjà auprès de ses camarades. Parce que certains ont été choqués, certains ont des origines agréables.
Heureusement qu'ils ont été choqués.
Et là aussi, la sanction aussi. Maintenant, c'est d'affronter le regard des autres.
Évidemment. Et je pense que la sanction la plus dure, ça va être celle à venir. Ouais.
Allez, 9h56, on se retrouve dans quelques instants pour parler de rugby, mais de sport cette fois. Avec ce choc ce soir entre Toulouse et l'UBB. Mais l'UBB va faire tourner. Aïe, 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 est-ce une honte pour le top 14? À tout de suite.
Alors, Christophe, hein.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.